France Culture.
L'heure du journal de la rédaction qui vous est présentée aujourd'hui par Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le monde entier réagit après l'annonce d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien prochainement. Benjamin Netanyahou dénonce une récompense de la terreur. Washington parle d'imprudence.
La classe politique française, elle aussi, commente largement la décision du chef de l'État. Elle va trop loin pour l'extrême droite. Pas assez pour LFI.
Une guerre qui n'en finit pas et une autre qui se profile, c'est en tout cas ce qu'affirme Bangkok au sujet d'affrontements intenses depuis deux jours à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, en cause un différend frontalier.
Dans l'actualité française, la SNCF se porte bien, elle a multiplié son bénéfice par 6 en un an, nous tenterons de comprendre pourquoi.
Israël fulmine depuis hier, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance prochaine par la France de l'État palestinien. Pour Tel Aviv, c'est une récompense de la terreur, propos tenus dans la foulée par Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien estime que les Palestiniens ne cherchent pas à obtenir un État aux côtés d'Israël. Ils cherchent un État à la place d'Israël, selon lui. Décision condamnée également par Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio dénonce, je cite, « une décision imprudente qui fait reculer la paix, un camouflet pour les victimes du 7 octobre ». Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas salue quant à lui une victoire pour la cause palestinienne. Tout a commencé par ce communiqué publié hier sur les réseaux sociaux par Emmanuel Macron. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtrait l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. En pleine guerre à Gaza, qu'est-ce qui explique cette décision surprise? Est-ce l'énergie du désespoir? Question posée ce matin sur France Info au porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Lemoine, au micro de Marie Bernardo.
Non, c'est pas du tout l'énergie du désespoir. Encore une fois, l'idée c'est de maintenir une dynamique, c'est de maintenir une pression sur Israël pour que cessent ces opérations, pour que l'aide humanitaire puisse à nouveau rentrer librement dans la bande de Gaza, et puis aussi pour que l'ensemble des otages soient libérés. Donc encore c'est vraiment une question de dynamique qu'il faut instiller, et le moment c'est maintenant.
En France, cette annonce est largement commentée par les leaders politiques. Elle va trop loin pour l'extrême droite, pas assez pour LFI. Le président du RN, Jordan Bardella, qualifie cette décision de précipitée. Jean-Luc Mélenchon regrette au contraire qu'elle ne soit pas immédiate. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin salue de son côté une annonce historique attendue et courageuse qui honore nos valeurs universelles. La classe politique est, on le constate, très divisée sur cette question, comme nous l'explique le constitutionnaliste Benjamin Morel.
Il est certain que ce sujet, qui était peut-être beaucoup plus consensuel, au moins jusque dans les années Chirac, est devenu aujourd'hui une question de réelle tension politique et de réelle tension politique interne. C'est-à-dire que la question n'est pas est-ce que la France reconnaîtra un État palestinien, mais quand, à quelles conditions, et est-ce que ici, ce ne serait pas dans cette reconnaissance, c'est ce qui est dit, notamment par la députée Madame Yadan, qui fait partie de la majorité, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un point donné au terrorisme, etc. Donc ce sont ces questions-là qui vont se poser au sein de la majorité, avec une nouveauté par rapport à il y a quelques années, qui est la position du Rassemblement national, qui jusqu'à présent était sur une position très timide, voire même pro-palestinienne les décennies précédentes, et qui là a adopté une position très très pro-israélienne, mettant un peu la pression sur les LR et sur la majorité dans une forme de course à l'échalote. Et cette concurrence politique entre la gauche et le RN fait qu'aujourd'hui, au sein du socle commun, la question est tout sauf évidente.
Réaction également au niveau européen. Un entretien d'urgence est programmé dans la journée avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Au menu de leur discussion, comment obtenir un cessez-le-feu et faire parvenir l'aide humanitaire à la population gazaouie. Mais les trois dirigeants vont bien évidemment évoquer aussi la décision française annoncée hier soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas vraiment alignés. À Bruxelles, la correspondance de Fabien Cazot.
En reconnaissant un État de Palestine, la France prend une position qui n'est pas partagée pour le moment par ses deux principaux alliés militaires et stratégiques européens. Pour le moment, car côté britannique, lors d'un sommet en mai dernier avec le Canada et la France, une déclaration commune semblait ouvrir la voie à une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien. Mais cette déclaration est restée lettre morte depuis. Il y a eu aussi, il y a tout juste deux semaines, cet appel d'Emmanuel Macron à une reconnaissance commune par Londres et Paris. Le président français n'avait pas obtenu plus de succès. Le voilà donc qui fait cavalier seul, en attendant peut-être d'être rejoint par les Britanniques, alors que le fossé semble beaucoup plus profond en revanche avec les Allemands sur cette question d'un État palestinien. D'abord parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne met un point d'honneur à soutenir l'État d'Israël. C'est vu à Berlin comme une sorte de dette morale à cause de la Shoah. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, l'Allemagne est clairement en soutien de l'État d'Israël, de son droit à se défendre, le chancelier Friedrich Merz. L'Allemagne continuera à livrer des armes à Israël, déclarait encore le mois dernier son ministre des Affaires étrangères. Quant à l'éventuelle reconnaissance d'un État palestinien par Berlin, on en est encore très loin. L'Allemagne estimant officiellement que si un tel processus devait être lancé, il devrait d'abord commencer par une négociation entre Israéliens et Palestiniens. On voit mal à ce stade quand et comment elle pourrait avoir lieu.
Quel est l'intérêt de reconnaître un État qui n'existe pas encore? C'est l'une des questions qui se posent après l'annonce d'Emmanuel Macron. Cet État de Palestine serait fixé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et Gaza et la Cisjordanie pour territoire. Mais sur le terrain, nous n'avons jamais été aussi loin de l'existence d'un État souverain. À Ramallah, la correspondance d'Alice Moreno.
D'une part, il y a Gaza, assiégée, bombardée, affamée, sous le coup d'un blocus total opéré par Israël depuis le mois de mars et où le bilan de la guerre atteint presque les 60 000 morts. D'autre part, la Cisjordanie, les checkpoints tenus par l'armée israélienne sur les routes de ce territoire palestinien occupé se multiplient. Il y en a près de 900 aujourd'hui sur un territoire de seulement 5 000 km². Les contrôles et arrestations de Palestiniens sont de plus en plus fréquents. L'Est et le Sud de la Cisjordanie, dont le territoire est en zone C, autrement dit sous contrôle total d'Israël, s'étend et les zones A et B, gérées par l'autorité palestinienne, se réduisent au fil des ans. Il ne reste que des îlots de plus en plus épars. Depuis janvier, les grands camps de réfugiés palestiniens de Jénine et Tul Karem ont été vidés de leurs résidents et Israël s'applique à détruire les bâtiments. Quant aux signaux absolument clairs qui prouvent qu'Israël est très loin d'envisager une cohabitation, en mai dernier, le gouvernement a annoncé la création de 22 nouvelles colonies illégales en Cisjordanie. Et il y a seulement quelques jours, le Parlement israélien votait une motion symbolique pour réclamer l'annexion du territoire.
Une guerre qui n'en finit pas et une autre qui se profile. C'est en tout cas ce qu'affirme Bangkok au sujet d'affrontements intenses depuis deux jours à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, en cause un différend frontalier. La Thaïlande a ainsi évacué près de 140 000 civils. Bonjour Juliette Chénion. Est-ce que vous nous entendez? Alors, on devrait retrouver Juliette Chénion dans un instant. On va peut-être passer à un autre sujet, le sujet suivant. Juliette Chénion est à nouveau avec nous. Bonjour Juliette.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Bangkok. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu dans quelques heures sur ce sujet, donc au sujet de la crise entre la Thaïlande et le Cambodge.
Oui, et il y a quelques minutes, la Thaïlande s'est dite prête à négocier par la voie diplomatique avec le Cambodge. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué voir des signes d'apaisement dans les combats ce vendredi en fin d'après-midi, ici en local. Mais la Thaïlande a tout de même accusé son voisin cambodgien de ne pas aller dans le sens d'une négociation diplomatique. Et le Cambodge a plutôt dans la journée pointé la Thaïlande pour des crimes de guerre. Les pressions internationales depuis hier se sont accrues. La Malaisie a appelé au cessez-le-feu. C'est le pays président de l'Organisation des États d'Asie du Sud-Est en ce moment. Les États-Unis aussi ont appelé à cesser immédiatement le conflit, comme la France. Pour rappel, la Thaïlande avait demandé à son ambassadeur au Cambodge de rentrer il y a deux jours et expulser la représentation cambodgienne de Bangkok. Tout cela qui indique donc que la désescalade semble encore compromise en cette fin d'après-midi ici en Thaïlande.
Oui, les combats ont repris aujourd'hui. Juliette, quelle est la situation actuellement le long de la frontière ?
Il y a en effet eu des combats, au moins à 12 points d'affrontement. Plusieurs personnes ont encore dû évacuer. On parle de milliers de personnes, 4000 côté Cambodge et jusqu'à 140 000 d'après les autorités thaïlandaises. C'est la zone de 50 km autour de la frontière dans les deux pays qui a dû être évacuée. Le bilan, lui, n'a pas changé depuis ce matin. La Thaïlande parle de 15 morts depuis hier, dont 14 civils. Des violences jamais vues depuis 2011 dans ce conflit qui est en réalité vieux d'un siècle.
Merci à vous, Juliette Chénion, direct de Bangkok.
C'est une décision lourde d'enjeux, scrutée en France et à l'international.
Oui, la Cour de cassation va dire cet après-midi si elle maintient ou annule le mandat d'arrêt visant Bachar el-Assad délivré par des juges d'instruction français pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en l'occurrence les attaques chimiques imputées au pouvoir syrien et perpétrées en août 2013 dans la Ghouta orientale, où plus d'un millier de personnes auraient été tuées, selon le renseignement américain. Explication Florence Turm.
En novembre 2023, deux juges d'instruction parisiennes du pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité émettent un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad. C'est la première fois au niveau national qu'un mandat vise un chef d'État en exercice et très vite se pose une question de fond juridique. Le parquet national antiterroriste dépose une requête en nullité sans contester la responsabilité présumée du dictateur syrien, mais au nom de l'immunité absolue des chefs d'État en exercice devant les tribunaux étrangers. De recours en recours, la Cour d'appel valide en revanche le mandat, et c'est donc cette question qui doit être tranchée aujourd'hui par la Cour de cassation. Décision très attendue par les ONG et les parties civiles que représente l'avocate Jeanne Sulzer.
Cette question de l'immunité des chefs d'État en exercice, elle est sur toutes les lèvres. Malheureusement, il y a tant de conflits aujourd'hui. La question de l'immunité personnelle qui fait obstacle aujourd'hui à de nombreuses procédures, c'est attendu par de très très nombreuses victimes et organisations de défense des droits de l'homme dans le monde entier. Si la Cour de cassation décide que l'immunité personnelle ne peut pas s'appliquer en matière de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il s'agira tout simplement d'une décision historique, puisque ce sera la première fois qu'une juridiction nationale décidera effectivement que l'immunité personnelle n'est plus un tabou et qu'elle doit être écartée au profit de la lutte contre l'impunité.
Durant ces débats judiciaires, la situation internationale a évolué. Bachar el-Assad n'est plus président en exercice, renversé en décembre dernier par les rebelles islamistes et désormais réfugié en Russie. En cas d'annulation de leur mandat par la Cour, les juges d'instruction français pourraient donc délivrer un autre mandat, mais avec cette fois le risque de se heurter à une immunité fonctionnelle. Autre question de droit que la Cour de cassation doit également trancher aujourd'hui.
L'avion transportant Georges Ibrahim Abdallah a décollé ce matin de l'aéroport de Roissy pour le Liban. Ce militant pro-palestinien a été libéré dans la nuit après 40 ans derrière les barreaux. Il était l'un des plus anciens détenus de France. Il avait été condamné en 87 à la perpétuité pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Beaucoup d'entre vous êtes en vacances et les vacances, c'est l'occasion de prendre le train et de prendre des nouvelles de la SNCF. Et bien, sachez que l'entreprise se porte bien. Elle a multiplié son bénéfice par 6 en un an pour aboutir à près d'un milliard d'euros de bénéfices sur les premiers mois de 2025. Des résultats satisfaisants, commente sobrement la direction de la compagnie ferroviaire. Alors, comment les expliquer, Caroline Félix?
Alors, les comptes sont au vert dans les deux principales filiales de la compagnie, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. SNCF Réseau, c'est la société qui entretient le réseau ferré. Elle engrange 300 millions d'euros de bénéfices ce premier semestre avec ses revenus qui sont les péages, c'est-à-dire la contribution que payent les opérateurs pour circuler sur les rails. Cet argent permet d'entretenir le réseau, de remplacer les rails, de sécuriser 30 000 km de voies ferroviaires. Et ce prix du péage est très élevé. En France, il a continué d'augmenter en 2025, surtout pour les lignes régionales. Une hausse qui sera répercutée à terme sur le prix du billet. L'autre locomotive de la SNCF, c'est SNCF Voyageurs, l'entité qui exploite les rails. Son chiffre d'affaires est en hausse. Ça s'explique parce qu'il y a de plus en plus d'usagers sur les TER, les TGV, surtout sur le Transilien, le transport régional d'Île-de-France. Mais aussi parce que le prix des billets vendus a augmenté. Même s'il reste dans la moyenne des pays européens, ce sont surtout les prix maximum qui s'envolent, les prix d'entrée restent les mêmes. Et la rentabilité devrait encore augmenter. SNCF Voyageurs attend la livraison des TGV M nouvelle génération qui pourra transporter plus de personnes pour le même coût. Enfin, SNCF aurait pu faire encore plus de bénéfices si l'une de ces entités Keolis n'avait pas perdu de l'argent. Elle a perdu un gros contrat d'exploitation du réseau de tramway de Melbourne en Australie cette année.
Merci à vous Caroline Félix. Cet après-midi, beau temps sur les côtes méditerranéennes, la Bretagne et même le Cotentin. Ailleurs, temps chaotique où se mêleront pluie, nuages éclaircis et même des orages sur la façade est du pays. Température fraîche pour la saison de 21 Belfort jusqu'à 29 à Montpellier en passant par 24 à Paris. C'est la fin de cette édition préparée avec Alix Forgeot.